Merci pour ces informations. Retour à notre résumé d'une semaine d'actualité avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Brigitte Dumortier et Philippe Cadenne, auteurs d'un atlas des pays du Golfe, édité aux presses universitaires de la Sorbonne avec RFI. Dans quelques minutes, nous irons en Afrique. Rendez-vous avec vos messages. Mais tout de suite, l'actualité française de plus en plus politique à quatre mois de l'élection présidentielle.
RFI.
Actualité marquée par le chômage, la fermeture d'usines, de sociétés telles Seafrance, la compagnie de ferry Transmanche, que subitement Nicolas Sarkozy voudrait transformer en SCOP, Société Coopérative Ouvrière. Mardi, la justice a demandé une semaine de réflexion pour que les intéressés aient le temps de se pencher sur le dossier. Le but, verser des indemnités aux salariés de l'entreprise pour que ceux-ci prennent une participation dans la société. Agnieszka Kumor.
C'est au son des pétards et sous l'œil des CRS massés devant le tribunal de commerce de Paris que s'est déroulée l'audience sur le sauvetage de Seafrance. Pour maître Fouad Barbouche, l'avocat de la SCOP, cette semaine de répit est bienvenue, mais ne suffira pas.
Nous souhaitons avoir un petit peu de temps pour pouvoir étudier avec le gouvernement, avec les collectivités territoriales, la manière de trouver le financement nécessaire au démarrage de la SCOP.
Près de 2000 emplois, directs et indirects, sont en jeu. Le gouvernement propose de financer la SCOP avec les indemnités des salariés licenciés. Mais les intéressés restent sceptiques. François Le Gall, secrétaire général de l'Union fédérale maritime, CFDT.
C'est pas aux salariés de payer. Mettez-vous à leur place d'être licenciés pour donner leur prime pour pouvoir continuer à travailler. C'est n'importe quoi.
Au-delà de la réaction des salariés, une autre menace met en péril le projet. Le concurrent de Seafrance, le britannique P&O, a dénoncé l'aide déguisée de l'État. Il pourrait à nouveau porter plainte auprès de l'Union européenne.
Finalement, une partie des salariés a refusé ce plan.
Sept jours en France.
Et la politique, donc, elle va prendre une part de plus en plus importante dans une semaine d'actualité à l'approche de l'élection présidentielle. Premier tour en avril, rappelons-le. Lundi, François Hollande a voulu véritablement débuter sa campagne en publiant une tribune dans les colonnes du quotidien Libération et en étant l'invité du 20h le même jour sur France 2, Florent Guignard.
Changement d'année, changement de ton pour François Hollande, combatif selon ses proches, la gauche molle, le flou et l'indécision, tous ces mots doux prononcés pendant la primaire par ses propres camarades dont laissaient des traces dans l'opinion, mais qu'on se le dise, le candidat normal a du caractère.
Mieux vaut être normal qu'anormal. S'il s'agit d'autoritarisme, je laisse ça à celui que vous connaissez. Vous croyez que j'en serais là, candidat à l'élection présidentielle, si je n'avais pas une force de caractère? Pensez que ça a été simple? Le parcours qui a été le mien, et aujourd'hui, je ne me laisserai pas détourner, et je ne me laisserai pas impressionner.
François Hollande a décidé de répondre au coup, comme Mitterrand en 1981, face au président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Le candidat socialiste attaque Nicolas Sarkozy, ce président en campagne.
Qu'il dise qu'il n'est pas candidat, ça fait sourire, enfin, chacun a compris, ça fait partie d'une forme d'hypocrisie. Je n'ai pas du tout cette démarche, je pense qu'il faut être clair. Mais il fait ce qu'il veut.
C'est la principale difficulté de François Hollande, boxer contre un adversaire qui veut monter sur le ring le plus tard possible. Lui annoncera son projet d'ici la fin du mois avec une précision de taille.
Je suis socialiste.
Mon projet n'est pas socialiste, avait dit Lionel Jospin en 2002. L'héritier n'a pas fait la même erreur.
Janvier, la période des vœux, ça ne vous a pas échappé, ceux de Nicolas Sarkozy durant tout le mois et ceux d'un autre candidat, François Bayrou, Valérie Gasse.
Facile de savoir ce que François Bayrou souhaite pour 2012, un joli mois de mai.
Que le renouvellement que le pays attend devienne une réalité, et ce sera le cas, je le dis à l'entrée de cette année 2012, au cours des deux étapes du printemps.
À l'orée de la campagne pour la présidentielle, François Bayrou est optimiste et veut entraîner derrière lui les Français.
Je sais qu'aussi profonde que soit sa crise aujourd'hui, la France la surmontera.
Mais pour que les mauvais jours finissent, François Bayrou appelle à une prise de conscience. La France doit trouver elle-même les solutions à la crise.
J'ai été frappé en écoutant les vœux du président de la République. Tout son discours tendait à faire croire que cette crise venait de l'extérieur. comme si les dirigeants français la subissaient. Et moi, je veux vous rappeler qu'ils en sont la cause principale.
Nicolas Sarkozy est donc renvoyé à son bilan et François Hollande, auteur d'une grande lettre aux Français, a son incapacité à convaincre.
Le premier devoir de celui qui sera élu le 6 mai prochain, c'est de redonner le moral à tout le peuple français. Cela ne se fera pas par du blabla. Ni du blabla par oral, ni du blabla par écrit. Je suis pour une vraie langue. Et pas la langue bâtarde avec laquelle on parle quand on n'a rien à dire.
François Bayrou, lui, revendique d'avoir des choses à dire et surtout de dire la vérité.
À noter aussi dans l'actualité française que des milliards d'euros d'investissements seront nécessaires pour améliorer la sécurité des installations nucléaires, mais aucune centrale ne nécessite a priori un arrêt immédiat, selon l'autorité de sûreté nucléaire. Autre grand dossier ouvert par Nicolas Sarkozy, à 4 mois de l'élection présidentielle donc, alors que jusqu'ici l'UMP n'en voulait pas, la TVA sociale évoquée dans ses vœux aux Français le 31 décembre dernier, une loi la créant en quelque sorte, devrait être discutée à l'Assemblée nationale.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Cadenne et Brigitte Dumortier, auteur d'un atlas des pays du Golfe édité aux presses universitaires de la Sorbonne avec RFI. Un très beau livre, très bel atlas, je l'ai dit tout à l'heure. Et puisque nous parlons de la France, j'allais dire, il faut obligatoirement parler du Qatar. Alors, ça ne vous a pas échappé, Brigitte Dumortier, Philippe Cadenne. On parle beaucoup du Qatar et pas simplement parce que le Paris Saint-Germain est à la une de l'actualité. Le Qatar a acheté, rappelons-le, le Paris Saint-Germain. Il y avait dans Le Monde daté de vendredi un article intitulé « Après le PSG, le Qatar au chevet des banlieues françaises ». Jusqu'où cela va-t-il aller, Brigitte Dumortier ?
Alors, je crois déjà qu'il faut dire que, comme on l'a montré dans cet atlas, donc, qui a été, comme vous le disiez, publié avec RFI et les presses de l'université Paris-Sorbonne, ces pays ont une très grosse capacité d'investissement et souhaitent diversifier leur économie pour assurer l'après-pétrole. Et une des façons, c'est évidemment de transformer la rente pétrolière en rente financière et d'assurer les générations, le devenir des générations futures grâce à des fonds d'investissement, à des fonds souverains qui investissent dans ce qui leur paraît des investissements solides ou avec des bons retours sur investissement. Donc le PSG, il a été racheté à des Américains puisque c'était une compagnie américaine qui détenait plus de 90% du PSG, ce dont personne ne semblait s'émouvoir. Par ailleurs, évidemment, le Qatar est un des gros actionnaires de Vinci. Et le Qatar, alors je parle que pour la France, puisqu'ils sont aussi très célèbres pour avoir racheté à Rhodes, par exemple, pour avoir une grosse participation chez Porsche et chez Volkswagen. Donc en France, ils sont devenus l'actionnaire majoritaire avec 10, quelque chose de Lagardère. Donc ils ont des stratégies d'investissement. Alors évidemment, certains de ces investissements sont plus médiatisés que d'autres, le Paris Saint-Germain, et ce fonds qui a été débloqué de 50 millions d'euros, je crois, pour les banlieues.
50 millions d'euros, oui.
Alors moi, qui avant le golf ai une autre vie, qui était une vie irlandaise, je dois dire que l'American Fund for Ireland, chaque année, met 100 millions d'euros à la disposition de l'Irlande et a joué un rôle considérable, par exemple, dans la reprise économique en Irlande du Nord, qui a été un aspect essentiel du processus de paix au-delà de l'action de l'Union européenne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours aussi une petite dimension géopolitique dans ces investissements
à l'étranger. Hasard,
Donc, je pense que sur les banlieues, Philippe est d'accord avec moi sur cet aspect.
Oui, tout à fait. Et je pense que le Qatar, quand même, de plus en plus, joue sur une image, l'image de l'éducation, l'image d'une certaine liberté de parole, avec donc la télévision, les journaux. Et je pense que donc, cette politique d'investissement dans des événements dans des éléments médiatiques, en fait, participe d'une politique qui est celle, justement, de spécialisation. C'est-à-dire, en fait, le Qatar essaye de montrer qu'il a une différence par rapport aux autres pays du Golfe dans cette compétition, qui est aussi une coopération, que j'évoquais tout à l'heure.
Avec une préférence pour ce qui est spectaculaire. Le Paris Saint-Germain, le football, ça marche bien. Vous parliez, Brigitte Dumortier, de Lagardère, donc c'est un groupe de presse aussi, d'édition. Et il faut aussi rappeler la création en 1995, je crois, d'Al Jazeera.
Voilà, c'est ce que je disais. Oui. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier les universités, par exemple, puisque le Qatar veut implanter un système universitaire qui a vocation, comme la Sorbonne à Abu Dhabi, par exemple, où on a 40 nationalités. Au Qatar aussi, il y a une vocation d'attirer des étudiants de l'étranger, des étudiants arabes, et de devenir un pôle qui compte au niveau culturel, au niveau éducatif aux Émirats.
Bon, je crois que c'est important de dire que ces universités sont des universités qui sont vraiment dans la mondialisation. Je ne sais pas si on a 40 nationalités, je pense qu'en fait on en a plus aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en ce qui concerne la Sorbonne à Abu Dhabi, l'enseignement, enfin les licences, l'enseignement est donné en français. Donc on apparaît un peu dans un front pionnier de la francophonie. Hein. Vous savez que les Émirats sont observateurs à la francophonie. Je dirais qu'Al Jazeera, c'est intéressant, probablement pour vous qui êtes un homme de radio, oui. Le parallèle avec RFI. Ou avec, parce qu'on sait très bien qu'à l'origine d'Al Jazeera, dans le personnel, il y a eu beaucoup de gens du BBC World Service, hein, notamment. Donc, alors pour les banlieues, bien sûr, ce qui est intéressant, au-delà des fonds débloqués à la demande hein, d'élus issus de l'immigration, c'est bien entendu les réactions que ça va susciter en France, je dois dire.
Et il y a plus de méfiance, on ne sait pas trop si le Qatar va financer par exemple des mosquées. Là, il y a un peu plus de prudence de la part des...
Oui, alors c'est toujours difficile pour ces pays de faire la part de ce qui serait un prosélytisme. On a beaucoup parlé, par exemple, de la wahhabisation des islams asiatiques, du fait des fonds que donnaient les Saoudiens pour créer des centres culturels ou des centres islamiques. Bon, dans le cas du Qatar, je dois dire que... Bon, j'en sais rien, hein. Les arrière-pensées. Ceci dit, il semble quand même que la demande porte sur le financement d'entreprises dans une logique qui est un peu celle aussi du microcrédit ou d'une certaine finance islamique, qui est de donner de l'argent pour mettre le pied à l'étrier à des entrepreneurs auxquels les banques prêtent pas facilement, soit parce qu'ils sont pas très solvables, parce qu'ils ont pas de patrimoine familial, ou pour des faits de certaines formes de discrimination.
Le Qatar, où on a voté, je crois, pour la première fois en 1999, c'est ça ?
Oui, alors là, tous ces pays commencent à se doter, sinon de parlement, du moins d'assemblées élues, pas forcément au suffrage universel. Alors là, sur ce plan... je dirais, de l'avancement dans des processus de démocratisation de type parlementaire, les différents pays du Golfe sont à des degrés différents. Hein. Par exemple, Philippe, qui connaît mieux que moi le Koweït.
Le Koweït est un pays étonnant, parce que, de fait, on a à la fois une démocratie moderne, avec un parlement, des élections, des affrontements entre fondamentalistes, justement, et d'autres qui ne le sont absolument pas, hein, et qui luttent vraiment de façon ouverte, mais aussi une sorte de démocratie tribale qui est partout présente dans le Golfe, mais qui, là, au Koweït, est extrêmement vivante. Donc, en fait, vous avez ces deux systèmes de débat et de prise de décision qui cohabitent. Et donc, en fait, on peut imaginer à terme que tous ces pays vont évoluer vers une sorte de gigante. Au mieux, si toutefois le projet réussit, ce sera une gigantesque Suisse, vous voyez.
Alors, on va partir en Afrique dans un instant et on parlera des mutations de ces pays du Golfe qui sont illustrées par les photos impressionnantes que l'on voit des villes, des tours qui se construisent dans plusieurs de ces villes.
D'actualité.
Et nous partons donc en Afrique, d'abord au Nigeria, où la suppression des subventions de l'État au carburant depuis le 1er janvier a considérablement fait grimper le prix de l'essence dans un pays qui est le premier producteur de pétrole du continent, le pétrole, toujours le pétrole. La population de ce pays, de 160 millions d'habitants, se révolte. Nicolas Champeau, mercredi.
Réunis dans la capitale Abuja hier, les responsables syndicaux du Nigeria n'ont eu de cesse de dénoncer la levée de la subvention au carburant annoncée sans consultation par le gouvernement le 1er janvier. Abdelwahid Oumar, le président de la Confédération NLC, a déclaré que les tarifs prohibitifs de l'essence à la pompe allaient pénaliser des dizaines de millions de foyers au Nigeria.
Les augmentations incessantes d'un produit de base comme l'essence exercent un impact sur le coût de la vie et les coûts de production. Elles affectent donc le bien-être des Nigérians qui sont de plus en plus pauvres. La mesure aura un impact généralisé sur le prix des transports, des médicaments, de la nourriture et des frais de scolarité. Le gouvernement, lorsqu'il minimise les conséquences de la levée de la subvention, se fourvoie donc complètement.
Les réseaux de distribution d'électricité au Nigeria sont particulièrement défaillants. Les ménages modestes et les petits commerçants s'équipent de petits générateurs qui fonctionnent à l'essence. Ils sont donc affectés par la levée de la subvention au carburant qui a généré une flambée immédiate du prix du litre à la pompe. Il a plus que doublé. Les confédérations syndicales, au-delà d'un appel à la manifestation dans plusieurs villes, menacent de paralyser tous les secteurs stratégiques du pays, y compris les ports et les aéroports, si le gouvernement ne rétablit pas le prix initial de l'essence à la pompe d'ici lundi.
Il vous faut aussi savoir, toujours au Nigeria, que des explosions ont secoué le nord du pays, où l'état d'urgence a été décrété après un ultimatum de la secte islamiste Boko Haram aux chrétiens pour qu'ils quittent le nord du pays à majorité musulmane. Suite d'une semaine d'actualité en Afrique, toujours au Cameroun, avec des violences à Douala après l'assassinat d'un habitant par un conducteur de moto-taxi, un Ben Skinner, dit-on là-bas. Un acte qui a déclenché des représailles de la population. Écoutez par exemple cette correspondance de Polycarpe Essamba. Mercredi.
Quartier d'Edou à Douala, il est 10h. Des centaines de jeunes du quartier sont à nouveau sur le pied de guerre. Quelques minutes plus tôt, un individu non identifié a lancé un cocktail Molotov sur un commerce qui s'est aussitôt embrasé. Un homme politique, Pierre Frisngo, natif du coin, tente de calmer les esprits.
Moi, j'ai sollicité ou j'ai souhaité qu'on mette un cordon de sécurité ici, pour qu'il n'y ait plus de problème entre les deux camps. Les Benskineux sont les Camerounais à 100%, les Daïdous sont les Camerounais à 100%, et toutes les populations doivent être tranquilles.
En face, quelques centaines de mètres plus loin, les forces de l'ordre essayent de contenir des mototaximens en furie. Ils veulent en découdre. Ils seront finalement dispersés par des voitures anti-émeutes à coups de gaz lacrymogène et autres jets d'eau. Au loin, des flammes lèchent des murs des habitations, des mototaxis sont calcinés. Une fois de plus, on a frôlé le pire. Et Edith Kawala, récemment candidate à la dernière élection présidentielle, vient elle aussi s'essayer au jeu d'apaisement.
Il y a des problèmes de fond. Là, c'est des problèmes d'insécurité. C'est des problèmes de chômage pour nos jeunes. C'est des problèmes de transport public dans la ville de Douala. Donc, nous avons besoin d'adresser ce problème-là. Mais il nous faut le calme.
Les différents protagonistes ont-ils entendu ces appels au calme? Bien malin qui pourrait y répondre.
Et revenons maintenant sur la candidature du chanteur et homme d'affaires Youssou N'Dour à l'élection présidentielle du Sénégal, avec une mise en perspective de notre correspondant à Dakar, Laurent Corot.
En proclamant qu'il est l'alternative à l'alternance, bien qu'étant neuf en politique, Youssou N'Dour met une voix populaire sur une tendance de fond silencieuse, celle d'un renouvellement de la politique sénégalaise depuis l'extérieur du système des partis. Les grands débats organisés lors des assises nationales de 2008 et 2009 ont constitué un jalon important de cette évolution. Lors des élections locales de mars 2009, on a ensuite vu se forger des alliances nouvelles entre société civile et partis. Il y a eu également l'efflorescence de mouvements citoyens de 2010, puis la naissance en 2011 du M23, le cadre créé entre partis et organisations apolitiques après les manifestations contre la réforme de la Constitution. Pour la présidentielle à venir, différents candidats indépendants veulent porter cette parole extérieure aux partis. Youssou N'Dour, mais aussi le diplomate Ibrahima Fall ou l'universitaire Hamsatou Sow Sidibé. Les appareils politiques traditionnels ont largement perdu de leur capacité à faire rêver les gens au Sénégal, analyse le chercheur en sciences politiques Alioune Badara Diop. Alors poursuit-il que dans le même temps, ils n'ont pas fait jouer la démocratie en interne. Une offre politique nouvelle s'est donc mise en place hors de ces partis.
À noter aussi dans l'actualité africaine, une attaque à la grenade et 2 morts à Kigali, au Rwanda, mardi. Des troubles entre communautés locales au Soudan du Sud et l'agression à Paris du président du Sénat de la République démocratique du Congo, Kengo Wa Dondo.
Thank you.
à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages, pour vos courriels. Continuez évidemment à nous écrire. Mes meilleurs vœux pour 2012. Un salut aujourd'hui à Samba Diouma qui est sceptique quant à la candidature de Youssou N'Dour. Il devrait d'abord soutenir un candidat pour préparer l'opinion publique à son entrée en politique, écrit-il. Bonjour à Franklin à Lomé. Bonjour à Chan qui nous écrit d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam pour nous dire « Je veux parler couramment le français ». Nous ne pouvons que vous encourager, Chan. Vive la langue française. Enfin, bonjour à Louis-Marcel au Burundi. Il souhaite une bonne année 2012 aux auditeurs, sans Bachar el-Assad en Syrie, sans Abdoulaye Wade au Sénégal et avec en Afrique des élections propres, écrit-il.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Cadenne et Brigitte Dumortier, auteurs d'un atlas des pays du Golfe, édité aux presses de l'université Paris-Sorbonne, il faut être précis. Donc j'ajoute dans l'actualité africaine que l'ONU a annoncé hier qu'elle lançait une opération massive d'urgence humanitaire, dit-elle, au Soudan du Sud, dont je parlais à l'instant, en proie donc à des violences interethniques qui ont affecté quelques 50 000 personnes. Nous revenons dans les pays du Golfe pour souligner, et c'est un des aspects de votre livre, l'importance des mutations ces dernières années de ces pays du Golfe qui sont extrêmement spectaculaires et qui se voient par exemple sur la couverture de votre livre. Ces tours, magnifiques tours, Brigitte Dumortier.
Alors il y a des mutations effectivement dans le paysage urbain.
On a l'impression que ça change tous les jours, comme en Chine.
Oui, on a l'impression que quelque chose qui a 30 ans est vraiment quelque chose d'obsolète. On a des villes qui se reconstruisent sur elles-mêmes, toujours plus haut. Donc, on a l'impression même qu'il y a une accélération depuis la décennie 2000 de ces changements. Ça, c'est très net. Alors maintenant, évidemment, ces changements sont aussi, là encore, pour rebondir sur ce que disait Philippe Cadenne tout à l'heure sur le Koweït, génèrent des tensions entre le clan des traditionalistes et celui des modernistes, qui n'est pas forcément sur des clivages fondamentalisme religieux ou pas. Je crois qu'il faut faire très attention. Bien sûr, il y a des... Il y a quand même des interférences, bien sûr. Néanmoins, il y a quand même des gens qui trouvent que ça va un peu trop vite et qui ont parfois, dans ceux qui trouvent que ça va un peu trop vite, qui ont un peu peur justement que la rapidité du changement ne provoque une sorte de retour de balancier un très grand conservatisme.
Et Brigitte Dumortier, cela vaut dans tous les pays du Golfe ?
Alors, moi, je dois dire que je connais quand même beaucoup mieux les pays du sud du Golfe.
Philippe Cadenne.
Oui, mais en fait, la prudence parfois peut être simplement la peur d'une seconde crise comme on a vécu à Dubaï. Donc en fait, si vous voulez, on a parmi les modernes des gens qui voient une sorte d'issue aux problèmes des pays de la région dans une sorte de capitalisme extrêmement rapide, exacerbé, et d'autres qui, au contraire, et ce ne sont pas forcément des conservateurs, qui voient la nécessité d'une prudence de manière à ne pas recommencer des erreurs qui n'ont pas mis à bas Dubaï, mais qui quand même ont posé des problèmes graves aux entreprises locales.
Brigitte Dumortier, vous disiez que dans le camp des modernistes, il fallait compter sur les femmes.
Oui, alors les femmes, c'est toujours très compliqué, puisque à la fois, on connaît ça dans le vote, dans les études qui ont pu être faites sur l'électorat français dans d'autres périodes, que les femmes pouvaient être aussi un facteur de conservatisme. On sait très bien aussi sur le lien entre les femmes et la religion, etc. C'était très étudié pour la société bretonne, par exemple. Néanmoins, on a l'arrivée d'une génération de femmes ayant fait des études supérieures, ayant travailler dur parce qu'elles ont, je crois, plus à gagner que les garçons. Nous, on voit ça à l'université. Certains garçons sont extrêmement brillants aussi, mais les filles vraiment en veulent. Alors justement, je pensais à l'ouvrage d'Olivier Todd et Youssef Courbage. Donc Olivier Todd, ce sociologue très connu.
Bien, oui,
Youssef
bien,
Courbage, chercheur, directeur de recherche à l'INED, après avoir travaillé pour différentes agences onusiennes, qui s'appelle Le rendez-vous des civilisations. Et qui considère que le changement social est un peu inéluctable dans la mesure où... d'une part, on a un effondrement de la fécondité. Du point de vue démographique, on a un recul de la polygamie, On a des femmes qui ont de moins en moins d'enfants et qui ont, pour une proportion de plus en plus grande, fait des études supérieures. Donc, ça change quand même la donne. Hein, ça change quand même la donne. Donc, c'est dans ce sens que je disais que les femmes étaient probablement un facteur de modernisation de la société.
Encore faut-il qu'elles puissent voter, par exemple.
Oui, alors, je pense qu'elles...
Se lancer en politique, même.
Oui, alors, ça, on peut se demander, c'est toujours un petit peu le problème, y compris dans des pays occidentaux, si une femme parlementaire, c'est pas un alibi.
Parfois,
non, mais c'est pas parfois un alibi, on met une femme en avant, ça évite de changer le sort des autres.
Oui, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les jeunes femmes que l'on peut rencontrer à l'université, par exemple, sont extrêmement volontaristes et n'ont pas du tout l'intention de se laisser passer devant par les garçons. Et on les voit pas encore à des niveaux de responsabilité très importants, mais quand même, on voit de plus en plus de femmes qui ont des postes importants et qui sont des interlocutrices réelles hein, dans la vie sociale, économique de la région.
Philippe Cadenne, Brigitte Dumortier, vous me disiez que parmi vos étudiants, il y avait pas mal d'étudiants africains, on les salue ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a des étudiants africains qui viennent là, tout simplement, parce que nous sommes université francophone.
Abu Dhabi,
À Abu Dhabi, donc université francophone, ce qui fait qu'un certain nombre d'entre eux viennent, soit financés par leur famille, soit bénéficiant de bourses.
Merci Brigitte Dumortier, merci Philippe Cadenne. Vous avez donc conçu cet atlas des pays du Golfe que je recommande vivement. C'est un livre extrêmement intéressant et un bel objet. Livre publié aux presses de l'université Paris-Sorbonne avec RFI. Une semaine d'actualité, réalisation Vanessa Ravensky. Je vous retrouve demain pour Idée, 17h10, heure de Paris. Nous parlerons de Primo Levi. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal.